Les cours du Collège de France, Thomas Lecuy, chaire dynamique du vivant.
Écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir de vous retrouver après que j'avais arrêté pendant un an. Je m'étais reposé pour reprendre un nouveau souffle après 6 années de cours et puis songer un peu à quelles vont être les prochaines années et au sujet qui m'intéresse. Alors donc, le sujet concerne les cours de cette première année et qui, à vrai dire, devrait m'entraîner aussi l'année prochaine, est un sujet qui, à la fois, est central en biologie, mais n'est pas souvent traité de façon directe, c'est celui de l'information biologique. Et donc, j'ai préféré intituler le cours de façon assez ouverte, sous forme d'une question: qu'est-ce que l'information biologique? Ce qui, en un sens, m'obligerait à y répondre, mais je vous annonce tout de suite que je n'ai pas à tenter une réponse définitive, une question qui est par définition ouverte. Et j'aimerais donc, peut-être en guise d'introduction, dire les choses suivantes. La première chose, c'est que quand on songe à l'information biologique, on fait face à deux réactions communes. La première, c'est de dire finalement l'information biologique, c'est assez trivial. C'est finalement ce qu'il y a dans l'ADN, tout ce qui concerne la génétique ou la génomique, et que finalement le sujet est bien connu, clos. Pourquoi s'y intéresser? La deuxième réaction, venant de gens un peu différents, serait de dire que finalement l'information biologique, c'est un concept vague, nébuleux, pas très bien défini. À vrai dire, c'est même pas véritablement un concept scientifique. Donc, pourquoi en parler? Alors, je comprends ces deux réactions et je les ai entendues d'un certain nombre de mes collègues que j'ai interviewés sur cette question ces dernières années. Mais, à la fois poussé par nos propres intérêts de recherche et par ma curiosité, je pense à contrario que l'information biologique est un concept central pour ce qui concerne l'étude du vivant, qu'il convient donc de s'y intéresser directement, en dépit des réactions de trivialité ou du caractère vague du concept. Donc le but de ce cours est de finalement rentrer dans une compréhension renouvelée de l'information biologique, en tout cas c'est l'ambition de ce cours cette année, et pour cela j'aimerais vous inviter à suivre le même itinéraire intellectuel que j'ai essayé de suivre lors de la préparation de ces cours, c'est-à-dire en un certain sens de désapprendre toutes les choses que l'on sait, toutes les choses que l'on a apprises, et qui nous amènent à conclure, sous une forme ou une autre, que l'information est ou triviale ou un concept flou. Et donc, en désapprenant les choses, l'idée, notamment dans ce cours d'introduction aujourd'hui, c'est de réapprendre ou de redécouvrir comment finalement le concept de l'information a été forgé en biologie au XXe siècle, et finalement d'arriver aujourd'hui à une perception peut-être déjà un petit peu plus ouverte du concept d'information. En tout cas, c'est l'objectif de ce premier cours d'introduction aujourd'hui. Et j'ai choisi pour cela de m'intéresser à l'information la plus évidente, qui est celle que l'on perçoit lorsque l'on connaît un peu de biologie, qui est l'information contenue dans une cellule, et en particulier l'œuf, au prélude de la formation d'un nouvel organisme. Et donc l'intitulé de ce cours, ou le sous-titre, est « Quelle représentation au pluriel pour le génome ?» Donc, on commence toujours par un état un peu de la phénoménologie du vivant. Nous savons tous que les formes vivantes sont extrêmement diverses à différentes échelles, l'échelle des organismes, l'échelle aussi des cellules, dans le règne animal, le règne végétal. Et finalement, la question lancinante pour tout biologiste, et déjà les anciens s'interrogeaient sur cette question, c'est de comprendre comment rendre compte de la dynamique interne et de l'organisation d'un système vivant de l'échelle cellulaire à l'échelle des organismes. Alors, la forme extérieure, mais également la forme intérieure, évidemment. Et finalement, cette diversité des formes est à voir en contraste avec le fait que, connu depuis tous les humains depuis très longtemps, les formes sont similaires des parents à leur descendance. Les chiens font des chiens, les chats font des chats, les humains font des humains. Et donc cette stabilité des formes est quelque chose de tout à fait remarquable. D'ailleurs, dans son livre « What is life », Schrödinger lui-même s'était interrogé, ou en tout cas était parti de ce constat trivial, pour finalement réfléchir à cette question de l'hérédité des formes vivantes et de l'information qui sous-tend, en prenant par exemple celui de la lignée des Habsbourg et du prognatisme de la famille, très visible sur ces tableaux à 2 siècles d'écart. Mais on peut prendre également des animaux pris dans l'ambre, comme ce moustique il y a quelques dizaines de millions d'années, qui grosso modo a une forme équivalente au moustique contemporain. Et finalement, dans une échelle de temps qui est celle des temps géologiques, hein, en quelques dizaines de millions d'années, on voit la formation des Alpes et en même temps, on voit les moustiques pris dans l'ambre qui ont une forme équivalente au moustique contemporain. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de paradoxal. Le vivant est à la fois les organismes vivants meurent, mais il y a quelque chose que l'on pourrait grosso modo appeler l'information qui passe de génération en génération et d'une façon qui n'était pas connue au début du XXe siècle et à peine commencé à découvrir lorsque Schrödinger en parle en 1948, qui finalement semble avoir la forme d'une stabilité à travers les générations et ce pendant quelques dizaines de millions d'années au moins. Donc le plan de secours comprend donc cinq parties que l'on va voir donc progressivement et j'aimerais commencer par repenser ou penser l'œuf d'un point de vue historique comme un état d'information compressée pour prendre une métaphore. Alors on va beaucoup utiliser aujourd'hui des métaphores dans le domaine de l'informatique, mais j'entends bien que ce sont tous des métaphores et en les exposant, je vais même aussi les critiquer à des moments importants de ce cours. Donc l'idée d'une compression de l'information de l'œuf se constituera la première partie de ce cours. Donc déjà, d'un point de vue historique, la découverte que l'œuf est le point de départ à la constitution de tous les organismes date grosso modo du XVIIe siècle. On cite en particulier le travail de William Harvey au XVIIe siècle, qui est l'auteur de, et d'ailleurs on voit ici sur cette gravure, Ex ovo omnia, donc tous les organismes que l'on voit ici représentés proviennent tous d'un œuf. Avec William Harvey, on a une conception du développement qui est dite épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a un processus d'élaboration progressif de la forme qui va à rebours et de la génération spontanée et des théories de la préformation. Donc si l'on se représente aujourd'hui la question centrale qui nous intéresse du point de vue de l'information, c'est comment comprendre que cet œuf unique, cette unique cellule est capable de former un état transitoire entre un adulte et un autre adulte qui en sera le point de départ. Dans l'intitulé ou dans le prologue de son livre « La logique du vivant », François Jacob cite cette phrase de Diderot qui montre combien effectivement il y a de quoi s'émerveiller devant cet état de fait. Et donc, voyons cela par exemple en nombre, en chiffres, de façon quantitative. L'état de compression est à la fois physique, d'un rapport de 1 pour 10 puissance 4, si l'on prend la taille d'un ovocyte par rapport à la taille moyenne d'un adulte, en masse, d'un rapport de 10 puissance 10, en nombre de cellules, 400 cellules de type cellulaire différent, mais un nombre de cellules, 3 10 puissance 13 cellules chez un organisme humain adulte contre une cellule. Donc finalement, il y a un état de compression dans le terme d'organisation, en termes de complexité, mais également en termes de nombre, de masse, de volume et de nombre de cellules. Et donc finalement, comment imaginer, se représenter d'une façon précise qu'une cellule puisse avoir pas simplement la potentialité, mais quelque chose qui est apte à prescrire la formation future d'un adulte. Alors pour mettre ces choses à leur propre échelle, ce tata de compression que je représentais en chiffre, c'est imaginons-nous par exemple Paris intramuros, 10 km sur 10 km, 2 millions d'habitants, 10 puissance 11 grammes, qui seraient compressés en un volume de 1 mètre sur 1 mètre et de 10 grammes. C'est en gros l'état de compression similaire dont on parle lorsque l'on songe à une cellule capable de régénérer un organisme comme un adulte humain. Donc finalement, on peut se représenter la question de l'œuf comme quelque chose d'une compression d'un état ou de l'information qui est nécessaire à la formation du futur organisme. Et donc ici, en un certain sens, l'information, je la définis comme un concept très opérationnel. On peut le voir, à minima, comme l'ensemble des instructions ou des prescriptions d'un système capable de prédire l'évolution future du système en question. Donc c'est quelque chose qui intéresse le chercheur, qui va essayer de caractériser ses prescriptions et ses prescriptions, mais qui, à contrario, de même, en parallèle de cela, est certainement inscrit dans l'organisation du système vivant de telle sorte que sa connaissance renseigne sur la façon dont l'organisme lui-même est capable de générer sa propre évolution au cours du développement. Donc la question, c'est quel est ce contenu d'information? Et dit différemment, on peut utiliser le mot de représentation, qui est un concept abstrait. On peut se poser la question de quel type de représentation y a-t-il dans le génome et qui préfigure la formation de l'adulte plus tard. Donc cet œuf dont on parle, et dont on voit qu'il correspond à un état de compression de l'organisme futur, il a été pensé dans un schéma préformationniste encore au XVIIe siècle, et on voit en particulier ces dessins connus de Horst Hartsocker, à l'époque où on découvrait les premières cellules. Finalement, il s'agit de dire dans ce cas-là que l'œuf contient en miniature l'organisme qu'il préfigure. Et donc, le développement animal, dans ce sens, n'est qu'un déploiement d'une forme déjà présente dans l'œuf. Et dans une forme extrême, chez Malebranche, on a la théorie de l'emboîtement des germes qui dit que finalement, toutes les formes ont été produites à l'origine et qu'elles ne font que se transmettre et se déployer sans ajout de nouvelles informations. Finalement, dans cette conception-là, il n'y a pas de nouvelles informations. Tout est déjà là, il s'agit simplement de le déployer. Mais en concurrence de ce schéma préformationnisme, dès le XVIIe siècle, et même bien avant, à la suite d'Aristote, le schéma épigénétique, lui, dit que le développement est le développement graduel d'une forme. Donc, s'il y a développement graduel, on aurait envie de dire que l'information n'est pas toute présente au début, qu'il a besoin d'apprendre, de faire venir une nouvelle information dans le système qui lui permette de le diriger vers un nouvel état. Donc ça, c'est le schéma de pensée de William Harvey, dont je parlais tout à l'heure. Donc on voit ces deux façons. Ou toute l'information est présente dans l'organisme, ou alors elle remonte aux origines, ou alors l'information n'est qu'une potentialité, ou même le système apprendra en recevant une information de son environnement. Alors à partir de ce schéma-là, il y a aussi deux façons de penser le rôle ou l'organisation, la transmission des caractères d'une génération à l'autre, par l'intermédiaire de cette cellule qu'est la cellule germinale. Le premier, en fait, est un schéma de pangénèse qui est directement associé aux schémas matérialistes qui se sont développés au XVIIIe siècle. On voit par exemple chez Maupertuis, comme Buffon, qui tous les deux utilisent le concept de particules pour les uns ou de molécules organiques pour l'autre, qui correspondent à une vision matérialiste du développement de l'organisme, mais qui sont en fait transmis directement du soma, du corps de l'adulte, transmis à la cellule œuf, et qui après donc préfigureront le développement de l'organisme suivant. Alors on retrouve cette façon de penser chez d'autres penseurs matérialistes comme Lamarck au début du XIXe siècle, comme Darwin qui parle de gémules, de vrisses, etc. Donc il y a une grande tradition biologique qui consiste à passer de pangénèse et donc de transmission de particules directement de l'un à l'autre. De sorte que l'information est directement transmise de l'adulte sous forme de particules par l'intermédiaire de l'œuf. Mais comme on le sait bien, ce schéma est en fait faux. Weissmann développe le concept de barrière, qu'on appelle maintenant la barrière de Weissmann, qui en fait aussi connue sous la forme de théorie du plasme germinal, selon lequel finalement c'est la lignée germinale qui certes est capable de produire un soma, mais qui après fécondation est capable de produire d'autres cellules de lignée germinale qui se transmettent de génération en génération. Et finalement, il y a donc ce schéma est complètement différent parce que évidemment les caractères sont transmis finalement de lignée germinale en lignée germinale après fécondation. Et donc l'information qui nous intéresse est à comprendre dans cette succession d'états de la lignée germinale. Alors après avoir exposé donc cette vision du développement et de l'œuf et son statut comme contenant une information qui restera à caractériser, il est important aussi de se replonger dans l'histoire les visions scientifiques qui ont amené à penser de façon déterministe sur le vivant. Donc, dans un schéma très ancien hérité d'Aristote, il y avait un schéma de causalité, de cause formelle, de cause finale, de cause efficiente, etc. À partir du XVIIe siècle et de Descartes en particulier, on enlève complètement en fait ce schéma de causalité pour ne retenir qu'une seule forme de causalité, la causalité efficiente. Cette causalité efficiente, c'est le concept moderne de causalité qu'on utilise lorsque l'on fait des sciences, et l'on voit par exemple chez Descartes, dans le discours de la méthode et le traité de l'homme, des phrases qui nous renseignent directement sur cette vision de l'organisme comme une machine, comme une espèce d'automate régie par les lois de la physique de façon déterministe. Et donc, je vais lire cette phrase. « Ces fonctions suivent toutes naturellement en cette machine de la seule disposition de ses organes, ni plus ni moins que font les mouvements d'une horloge ou un autre automate de celle de ses contrepoids et de ses roues. En sorte qu'il ne faut point à leur occasion concevoir en elle aucune autre âme végétative, référence à Aristote, ni sensitive, ni aucune autre principe de mouvement et de vie, que son sang et ses esprits agités par la chaleur de feu qui brûle continuellement dans son cœur et qui n'est point d'autre nature que tous les feux qui sont dans les corps inanimés. » Donc finalement, avec Descartes, un être vivant, c'est une machine, certes un peu plus complexe, et qui est régie par des lois déterministes. L'origine du mouvement est la chaleur, dit dans plusieurs phrases, dans plusieurs passages, ou un autre texte ici des principes de la philosophie. « Je reconnais aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature seule compose, il est certain que toutes les règles des mécaniques appartiennent à la physique, en sorte que toutes les choses qui sont artificielles sont avec cela naturelles. Car, par exemple, lorsqu'une montre marque les heures par le moyen de roues dont elle est faite, cela ne lui est pas moins naturel qu'il est à un arbre de produire ses fruits. Donc finalement, cette façon de penser l'organisme comme une machine, sur laquelle on reviendra, est très ancienne. Une autre point important, c'est de voir cette vision aussi très rationaliste et du déterminisme qui est important lorsqu'on parle d'information. Si on connaissait bien quelles sont toutes les parties de la semence, de quelle espèce d'animal en particulier, donc ces parties pourraient être par exemple le génome, par exemple de l'homme, on pourrait déduire de seul à seul, par des raisons entièrement mathématiques et certaines, toute la figure et conformation de chacun de ces membres. C'est-à-dire qu'on pourrait prédire à partir de l'organisation de l'œuf, si on avait une connaissance totale, le futur de l'évolution de cet organisme. Alors, cette vision de l'animal-machine a eu une postérité importante au XVIIIe siècle. Vous connaissez toute l'histoire du canard automate de Vaucanson, le canard digérateur, dont voici une image, et qui montre à quel point, en fait, cette nouvelle façon de penser a marqué les esprits et, en fait, a perduré au XVIIIe siècle, siècle des scientifiques matérialistes, comme on l'a vu tout à l'heure. Plus loin même, cela est étendu à la conception de l'homme, en disant finalement que même l'esprit n'est pas une substance à part, ce que disait Descartes, mais en fait, que le cerveau, grosso modo, c'est une machine sophistiquée. On dirait aujourd'hui, il fonctionne comme un ordinateur. Donc cette façon de penser l'homme et même le fonctionnement de son cerveau repose en fait à des schémas de pensée qui se sont développés, grosso modo, au XVIIIe siècle, concernant le fonctionnement du cerveau et de l'esprit. Avec donc Lametti dans son livre « L'homme-machine » qui est une référence directe en fait à l'animal-machine de Descartes. Alors, ayant vu donc rapidement ces notions historiques, on voit bien ici que la question de la compression de l'État correspondant à l'œuf maintenant appelle aussi une compréhension de cette décompression de l'État. Alors on dirait aujourd'hui un algorithme de décompression finalement, rien n'est perdu finalement lorsqu'on comprime une image, rien n'est perdu, on peut reconstituer l'image à partir d'une version simplifiée de sa description. Et finalement la grande question, on reformulait différemment, de dire quel est, y existe-t-il un algorithme de décompression, quelque chose qui, de façon métaphorique, ressemble à un algorithme de décompression, et quel est cet état en faible, en état de petite dimension, qui correspond à cet état comprimé de l'information qui prescrit l'évolution de l'organisme suivant. Donc, en deuxième partie, j'aimerais maintenant revoir quelques notions historiques qui nous amènent à nous rappeler comment nous en sommes venus à découvrir que le génome était en fait le porteur des déterminismes du développement ou de l'information du développement animal. Alors pour cela, rappelons-nous rapidement aussi les grands concepts historiques de la théorie cellulaire. Donc Théodore Schwann, en 1839, définit donc la cellule comme l'unité fondamentale du vivant. Rudolf Virchow, donc tout ça ce sont des scientifiques de la Prusse, définit le concept omnis cellula et cellula, en référence évidemment à Harvey, mais maintenant en disant que toute cellule naît d'une autre cellule. Walter Fleming, en 1882, pousse le raisonnement plus loin. Avec des nouvelles méthodes de microscopie, on commence à observer les noyaux cellulaires et dit finalement que tout noyau cellulaire provient d'un autre noyau cellulaire. Donc on s'approche de plus en plus du génome et on voit aussi maintenant à partir des années suivantes, donc fin 19e siècle, début du 20e siècle, en particulier avec Théodore Bovary, dont je vais parler dans quelques instants, mais également Sutton, qui définissent la théorie chromosomique de l'hérédité. Donc finalement, on voit ces structures, donc voici ici des dessins, des illustrations assez magnifiques à Bovary, où on voit ces chromosomes au cours du cycle cellulaire. Et donc, on va voir maintenant des expériences assez remarquables de Théodore Bovary, réalisées au début du XXe siècle, dans les années 1900, et qui l'ont amené à conclure que ces structures que l'on voit au microscope contiennent une information capable de déterminer la morphologie d'un embryon. C'est un travail suffisamment remarquable et peu connu que j'ai choisi en fait de le développer un tout petit peu. Donc Théodore Bovary, qui était vraiment un chercheur assez remarquable, a travaillé sur plusieurs organismes. L'un d'eux est en fait Ascaris, qui est un nématode de très grande dimension, une espèce de parasite qui ressemble grosso modo à Caenorhabditis elegans. Et on voit ici cet organisme, cette cellule, qui comporte quatre chromosomes, presque aussi simple qu'une drosophile, et il découvre les centrosomes, qui sont ces structures que l'on voit ici. Bon, c'est un marquage contemporain, ce ne sont pas ses propres marquages. Il découvre en fait ces structures, l'alignement des chromosomes entre une paire de centrosomes, et il s'interroge sur la fonction de ces centrosomes lorsqu'il voit les chromosomes se séparer de chaque côté. Et ce qui est assez remarquable, c'est que donc il observe donc que chaque chromosome est connecté à une paire de centrosomes qui joue un rôle fondamental dans la ségrégation des chromosomes. Et en suivant le positionnement des chromosomes avant la division et après la division, il en vient à conclure que ces structures, qui ne sont que des structures marquées, en fait, ils ne savaient rien de leur composition chimique naturellement, sont continues et individualisées, parce qu'ils retrouvent leur position et grosso modo leur structure après la division cellulaire. Donc ce n'est pas une structure évanescente qui se reconstituerait après coup, après la division, et qui n'aurait rien à voir. C'est quelque chose qui est continu physiquement, structurellement, à travers la division cellulaire. Et il s'intéresse rapidement, en fait, maintenant, à un organisme qui s'appelle l'oursin, dont on va voir ici le développement dans un film. Et cet oursin, dans un travail qui est assez fondamental ici, publié en 1907, il s'intéresse à des embryons d'oursin dits dyspermiques, c'est-à-dire un œuf fécondé par deux spermatozoïdes. Et ayant travaillé sur Ascaris, il a tout de suite vu que dans cette anomalie développementale, l'idée qu'un œuf puisse être fécondé par deux spermatozoïdes, ce qui n'est pas la norme, il y avait quelque chose de très intéressant pour comprendre le rôle des chromosomes. Alors d'abord, regardons. Ça, ce sont les dessins du livre de Bovary, hein, dont on peut récupérer un PDF. Et on voit ici donc la fusion des pronucléus. Puis après, vous allez pouvoir voir un centrosome. L'autre est en fait est caché en profondeur, mais on voit la première division cellulaire. On peut suivre encore les divisions. Vous pourrez voir ces zones. Donc ça, c'est la fusion des deux pronucléus pendant la fécondation. Voilà. Et on voit ces espèces de fibres autour hein, qui... Et assez rapidement, on voit ici un centrosome, l'autre est caché derrière, mais c'était pas la première division cellulaire. Et on voit dans les autres divisions la même chose. Donc finalement, ces deux structures que dessine Bovary, on les voit plus ou moins dans ce film que j'ai choisi pour vous. Alors finalement, le système est assez intéressant. On a deux spermatozoïdes et un ovocyte, dont trois ensembles de chromosomes. Il y a cette espèce d'oursin qu'il étudie, 36 chromosomes. Or, il y a quatre centrosomes. D'après les règles qu'il avait lui-même établies, où un ensemble de chromosomes a besoin de deux centrosomes, on voit bien qu'il y a un problème d'appariement, parce qu'il va falloir distribuer un nombre pair de chromosomes 4 parmi trois centrosomes. Et donc, forcément, il va y avoir des anomalies de ségrégation chromosomique, et c'est cela même qui, en fait, dont il a eu l'idée comme moyen d'étudier, en fait, des anomalies développementales. Donc, par exemple, on voit, donc, le problème est, il y a donc 18 chromosomes multipliés en trois copies, donc 18 chromosomes, ça fait donc 54, qui sont connectés à quatre paires, à quatre centrosomes. Donc voici par exemple une illustration possible de la répartition aléatoire de ces chromosomes entre les quatre centrosomes. Et on voit donc après donc duplication de l'ADN, passer de N, 3 génomes haploïdes à 3 génomes diploïdes, on voit ici donc la formation, la réunion de ces deux par paire, cette cellule avec 32 chromosomes ici, 18, 36, 22. Donc ça, c'est un cas, il ne l'observe pas directement. C'est une supposition, une hypothèse faite à partir de la connaissance qu'il avait tirée de l'étude d'Ascaris et du nombre différent de centrosomes par rapport aux chromosomes. Et ici, illustré de façon différente, en nommant ces chromosomes A, B, C, D, il voit un exemple de ségrégation qui serait donc anormale des chromosomes, où certains seraient en une seule copie, d'autres en deux copies, etc. Donc à partir de là, donc il expose différents schémas et voit donc la fréquence possible d'anomalies de ségrégation, par exemple l'absence complète d'un chromosome qui créerait, d'après lui, une anomalie de développement qui devrait pouvoir s'observer. Alors pour analyser le destin cellulaire de cellules qui hériteraient d'un nombre incomplet de chromosomes, il fait des expériences de dissociation des différents blastomères, il les sépare l'une de l'autre, et il étudie leur destin développemental. On voit ici des illustrations donc des larves Pluteus qui héritent, qui proviennent de ces dissociations. Moi-même, je ne suis pas un grand expert en oursin, donc je ne saurais pas forcément reconnaître ce qui est sauvage ou ce qui est anormal, mais enfin, grosso modo, ils ont une tête très différente les uns des autres. Il peut distinguer ceux qui sont normaux, et on voyait qu'il y a très très grande majorité des œufs, en fait, des blastomères hérités de ces dissociations, sont anormaux. Et donc, il en vient à conclure, oui, véritablement, mon idée est juste, le nombre de chromosomes est important pour déterminer la forme de l'embryon. Mais il va beaucoup plus loin en observant qu'il peut aussi créer des conditions où au lieu d'avoir 4 centrosomes, il peut y avoir 3 centrosomes. Or, dans ce cas particulier, avec un embryon dyspermique dans un embryon qui a 3 centrosomes ou 4 centrosomes, on va avoir une ségrégation différente. Dans un cas, on va en avoir en moyenne 27 chromosomes par cellule, mais dans le cas du triastère, comme il y a 36 chromosomes multipliés par 3, en fait, on va obtenir en moyenne, par une ségrégation aléatoire, on va avoir un nombre plus fréquent de cas où il y aura 36 chromosomes moyens par cellule, qui est exactement le complément normal de cellule. Donc il en déduit que, en comparant le triastère par rapport au tétrastère, on devrait avoir une fréquence plus importante d'embryons qui ont une forme normale dans ce cas-ci que dans ce cas-là. Et donc voici une illustration, ici une ségrégation aléatoire, on l'a vu tout à l'heure, et dans le cas d'un triastère, on va avoir 29, 43, 36 par exemple. Et donc ça, ce sont des suppositions, c'est vraiment une hypothèse qu'il formule sur la base de cette comparaison, et donc il fait l'expérience dans les deux cas, et il observe effectivement qu'il y a beaucoup plus d'embryons qui ont une apparence normale après dissociation des blastomères lorsqu'il y a un triastère qu'un tétrastère. Il en conclut donc que oui, véritablement, à défaut de pouvoir suivre et de compter les chromosomes dans chaque cellule, ce dont il n'avait pas les moyens à cette époque, la distribution statistique des anomalies est conforme à la prévision que le nombre de chromosomes doit jouer un rôle important dans la détermination du phénotype de l'organisme. Alors il va plus loin, il avait un ami physicien avec lequel il s'est dit, je vais faire une simulation. Alors, il ne s'agit pas d'une simulation sur un ordinateur, mais une simulation mécanique dans laquelle il dit, prenons un ensemble de billes, dont le nombre va être 3 fois 18, que je vais répartir soit aléatoirement, donc il fait l'expérience véritablement, il voit ici un résultat d'un dessin de la distribution aléatoire de ces billes, 54, sur un cadran comprenant 4 parties, ou 3, et donc il fait l'observation dans cette simulation par rapport aux données de la distribution aléatoire de ces billes, ce qui lui permettait d'avoir une mesure quantitative, statistique, qui lui permet de comparer ces observations. Et on voit ici, donc, dans les simulations, quand il y a donc 4, un tétrastère ou un triastère, et de voir donc la distribution de phénotypes. Et on voit très rapidement que, effectivement, on a vu tout à l'heure qu'il y a une probabilité, il y a une probabilité quasiment nulle d'avoir une ségrégation aléatoire normale ici. Et effectivement, il y a beaucoup d'embryons qui sont complètement anormaux. Dans le cas du triastère, on voit ici une fraction beaucoup plus importante dans les simulations qui est normale, comme on observe un nombre beaucoup plus important d'embryons normaux. Donc finalement, ici, c'est pas simplement la conclusion qui m'a intéressé, c'est aussi la méthode de voir combien il a formulé une hypothèse sur la base de certaines observations, combien il a pu faire les mesures statistiques, et donc d'en conclure, à défaut de pouvoir suivre exactement le karyotype dans chaque cellule, dans chaque embryon, d'en conclure de façon assez confiante que les chromosomes sont les porteurs d'une information déterminante pour le développement de l'organisme. Là, nous sommes en 1907, donc il y a un certain nombre d'années. Ces travaux, en fait, ont été en partie oubliés, peu connus, mais ils sont la première démonstration ou établissement de ce qu'on appellerait aujourd'hui un mapping du génotype sur le phénotype, au sens où il peut vraiment relier un phénotype observé à une ségrégation chromosomique. Alors, ce genre d'expérience de ségrégation chromosomique et d'anomalie développementale, c'est des expériences qui n'ont été refaites de façon propre et définitive que, par exemple, par Eric Wishaus au début des années 80, lorsqu'il est arrivé à Princeton, en utilisant des aneuploïdies et en observant directement connues, bien définies cette fois-ci, observables, enfin en tout cas caractérisées, et en observant l'anomalie développementale au cours de la gastrulation chez l'embryon drosophile. Donc là, on a véritablement un exemple, mais ces expériences ont été faites beaucoup plus tard. Alors maintenant, je voudrais en venir au cœur de ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de venir par étapes sur le type de métaphores qui ont été utilisées pour se représenter le génome, et de voir en quoi ces métaphores, comment elles ont évolué, et comment on peut maintenant en voir aussi certaines limites. Donc ces métaphores sont au nombre de 5. Nous avons passé plus ou moins rapidement sur certaines d'entre elles, le concept de blueprint, de code script, de programme, de recettes ou même de modèles génératifs. Alors, l'idée de blueprint, en fait, traîne aussi beaucoup dans la pensée commune, dans certains livres. C'est une métaphore assez utile qui est assez liée à un concept finalement préformationniste au sens où on dirait qu'il existe un plan présent dans l'ADN qui préfigure de façon miniaturisée et très déterministe et de façon très isomorphe au résultat final la structure de l'organisme plus tard. Elle spécifie la taille, la forme, la liste des composants d'une façon précise et de façon déterministe dans un schéma qui est très hérité de ce que l'on a vu, donc de Descartes et l'idée de machine. Alors ce concept de blueprint en fait est complètement incorrect dans la mesure où non seulement il n'y a pas d'isomorphisme entre l'ADN et puis le résultat final, mais même en plus, il n'y a aucune description dans ce type de métaphore de les moyens par lesquels finalement cette information, ce plan serait utilisé pour construire l'adulte. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire et on ne va pas passer plus de temps là-dessus. J'aimerais m'arrêter un peu plus sur le modèle du code script, alors qui a été forgé en particulier, je crois le premier à avoir l'utilisé, c'est Schrödinger dans son livre « What is life ?». Il faut voir quand même que de très très grands esprits, je vais parler de Schrödinger, je vais parler après de John von Neumann, c'est pas des gens qui ont eu des contributions mineures en physique et en mathématiques, des gens parmi les plus grands esprits du XXe siècle, se sont intéressés à cette question, et je vais énoncer en fait le type de métaphores qu'ils ont utilisées, toutes des métaphores héritées de l'informatique. Donc dans What is Life, Schrödinger, en particulier, donc s'intéresse finalement à cet état particulier de l'œuf qu'il interroge. On voit ici, this whole four-dimensional pattern, donc il parle du développement, known to be determined by the structure of that one cell, the fertilized egg, dont on a parlé. Et après, de ces chromosomes, it is these chromosomes that contain in some kind of code script the entire pattern of the individual's future development and of its functioning in the mature state. Every complete set of chromosomes contains the full code. Donc c'est la façon dont en 1948, on pouvait se penser la façon dont les chromosomes, dont on a vu le rôle déterminant, prescrivaient en fait la construction de l'organisme final. On voit aussi un langage qui est très rationaliste et déterministe. On voit ici finalement dit différemment ce que Descartes disait dans l'extrait que je montrais tout à l'heure, cette idée que l'on pourrait prédire, si l'on avait toute la connaissance de l'état de cet œuf, le futur du développement. Il dit « In calling the structure of the chromosome fibers a code script, we mean that all penetrating mind, once conceived by Laplace, to which every causal connection lay immediately open, could tell from the structure whether the egg would develop, under suitable conditions, into a black cock, or into a speckled hen, into a flower, or a maize plant, a rhododendron, or a mouse, or a woman. » Donc finalement, on pourrait avoir une connaissance, on pourrait prédire le développement futur de l'organisme à partir de la connaissance exacte de ce code script. Alors, Schrödinger, dans son livre, s'intéresse en particulier à la question de cette stabilité de l'information dont j'ai parlé et le fait que finalement combien d'atomes seraient présents dans une prescription de cette information et étant donné, et finalement comment se représenter ce code. Alors, il en vient à conclure que finalement peu d'atomes, par leur interaction combinatoire, pourraient générer une grande multiplicité d'états possibles. Et par exemple, il donne l'exemple du code Morse pour montrer combien, avec peu, on peut produire une grande diversité combinatoire. Donc finalement, il dit qu'il n'y aurait pas besoin de beaucoup d'atomes pour générer cette grande complexité. Mais finalement, le problème connexe devient que s'il y a peu d'atomes, et en pensant finalement au problème de la fidélité de l'information qu'il avait introduit plus tôt, on a une espèce d'énigme, c'est-à-dire comment penser une fiabilité de l'information et des formes générées s'il y a peu d'atomes pour l'encoder de façon combinatoire. Sachant que la précision de la mesure, c'est en 1 sur la racine carrée de n, n étant le nombre de particules. Donc on aurait véritablement un problème de précision s'il y avait peu d'atomes pour encoder cette forme. Ça, c'est l'un des problèmes centraux de Schrödinger, et donc c'est dans ce contexte-là qu'il en vient à proposer l'idée d'un cristal apériodique qui serait une façon finalement de stabiliser cette information avec peu d'atomes. Alors cette anticipation qu'on dirait aujourd'hui un polymère et finalement quelque chose qui a fortement influencé des lecteurs comme Watson et Crick qui d'ailleurs dans leurs lettres, donc comme on le sait bien en 1953, donc 5 ans plus tard, ils publient un modèle proposé de la structure de l'ADN en double hélice, qui serait donc non seulement une façon de stocker l'information génétique, qui à l'époque, beaucoup pensaient, était en fait plutôt portée par les protéines, et qui préfigure aussi l'idée d'une réplication de cette information. On voit ici dans cette lettre écrite par Watson et Crick à Schrödinger combien en fait la lecture de leur livre What is Life les a influencés dans leur propre recherche. Donc cette vision de CodeScript décrite en 1948 dans une conférence à Dublin de Schrödinger a véritablement marqué les esprits dans l'idée que finalement il y aurait quelque chose de nature combinatoire inscrite dans la structure de... Alors, il ne savait pas forcément sous quelle forme, mais maintenant on le voit être la structure de l'ADN qui préfigurait la structuration de l'organisme à venir. Alors, les étapes suivantes centrales sont finalement la caractérisation du flux d'informations en fait, qui part de l'ADN et qui permet de générer donc les composants de la cellule, en particulier leurs protéines. Et donc, c'est en 1971 que Francis Crick, 1970 plus exactement, relisant le travail de nombreux chercheurs dans les années 50-60, propose ce qui est maintenant connu sous le terme de dogme central de la biologie moléculaire, qui dit que finalement l'information, donc l'ADN s'autoréplique, produit les ARN, les messagers qui produisent les protéines. Ce sont ici des interactions hypothétiques en pointillé, mais ce qui est important, c'est que les protéines ne sont pas capables de modifier l'ADN dans ce dogme central. Comme on le sait aujourd'hui, il y a quelques exceptions d'édition de l'ADN, etc. Mais peu importe, le point central est que vraiment, au niveau de l'ADN, on retrouve finalement ce qui était vu au niveau de la lignée germinale. C'est quelque chose qui est un point de départ pour transmettre une information et non un point qui puisse faire l'objet d'une modification de la vie d'un organisme par le soma qui serait composé des protéines. Donc, on voit ici la caractérisation d'un flux d'informations. Et pour mettre un peu en perspective l'information dont on parle, on reparlera plus tard, donc au troisième cours, de la théorie de l'information de Shannon, comment elle peut être utilisée en biologie. Donc, on verra mieux cette idée de quantifier l'information, mais on sait tous que l'information se quantifie en bits néanmoins. Et en termes de densité, si on prend aujourd'hui un disque dur de quelques terabytes, on a une densité de lettres de 5 10 puissance 10 par centimètre cube. Un petit virus, on a une densité autrement plus importante, donc l'information est d'une très très grande densité dans une structure vivante, et on trouverait un nombre à peu près 10 puissance 17 par centimètre cube pour un être humain voilà, en ordre de grandeur. Donc finalement, l'information inscrite dans ce CodeScript est d'une très grande densité d'organisation. Alors, parcourons maintenant aussi la critique de cette vision. Sidney Brenner, dont on sait tous les contributions majeures dans le développement de la biologie moléculaire dans les années 50-60, a pointé du doigt une erreur fondamentale de Schrödinger dans le même livre dont on a parlé, lorsqu'il a finalement réfléchi au rôle de ces chromosomes, de ces structures, parce qu'il les pensait à la fois comme essentiels donc pour la réalisation du développement qu'ils annoncent. Ils sont à la fois, comme il le dit, donc les chromosomes, code législatif et pouvoir exécutif. Ou pour utiliser une autre métaphore, le plan de l'architecte et la réalisation de l'artisan, tout en un. Et ça, évidemment, c'est faux. Les chromosomes sont évidemment dépositaires de l'information qui prescrit le développement de l'organisme, cette information, mais ils ne sont pas les acteurs eux-mêmes de cette propre construction. Ils apportent une description des moyens de mettre en place le développement ou les étapes futures, mais ils ne sont pas ces moyens mêmes. Voilà. Donc ça, c'est une distinction très importante. Alors, on pourrait dire aujourd'hui, c'est pour cela que je vous invite à désapprendre tout ce que l'on connaît, parce que c'est important de voir que d'éminents esprits, en fait, en réfléchissant avec les connaissances de leur temps au rôle des chromosomes, ont pu en fait se perdre dans certaines conceptions du rôle de l'information, du rôle des chromosomes. Et finalement, on va venir maintenant à une conception évidemment plus correcte du rôle des chromosomes dans le développement, en considérant maintenant le rôle central de John von Neumann dans ses études. Alors, à vrai dire, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et j'ai beaucoup interrogé de personnes. C'est un travail qui n'est pas très largement connu, donc j'ai décidé de m'y arrêter un peu. Donc John von Neumann était un des esprits les plus exceptionnels du XXe siècle, brillant mathématicien qui a des contributions majeures en mathématiques pures, en axiomatique, en physique quantique, joue un rôle absolument déterminant. Et puis en fait très tôt, il s'est intéressé aux questions de logique et a découvert le travail de Turing en 1936, de Gödel également, qu'il a fait venir à Princeton. Et donc, il a été très fortement influencé par ces éminents jeunes esprits dont on va reparler. Et ceci l'a amené, lui qui est un esprit extrêmement curieux, s'intéressant à tous les domaines, en particulier à la biologie, à penser en fait à ce qui est intitulé ici dans cette conférence, une théorie générale et logique des automates. Donc en fait, il s'agit d'une conférence qu'il a donnée à l'origine en 1948, donc l'année même où Schrödinger donnait sa conférence à Dublin, ou en tout cas où le livre était publié, je crois que c'était sa conférence à Dublin en 1948. Cette conférence a été publiée quelques années plus tard, en 1951, et cette conférence dont on va parler, dont on peut retrouver le texte, et qui réunissait des gens des neurosciences, et principalement, et lui parmi d'autres, mathématiciens ou physiciens, il établit un lien direct entre les capacités d'autoreproduction des organismes et la théorie universelle du calcul qui commençait à émerger depuis les années 30 par l'intermédiaire du travail notamment de Turing, la question de la décidabilité dans les calculs des automates. Et donc on va évidemment parler de Turing dans ce contexte-là, et ce qui est très important du point de vue de l'histoire des concepts, et c'est pour ça que je voulais m'arrêter, c'est que cette contribution de John von Neumann établit un lien direct et intime entre la théorie du calcul, computation, et le processus, le traitement de l'information et ce qui se passe dans le vivant. Donc c'est cette innovation conceptuelle absolument majeure qui fait que certaines personnes, par exemple, disent que c'est sans doute l'esprit le plus important qui a contribué à la compréhension renouvelée du rôle de l'information au cours du développement. Alors, à vrai dire, il y avait des racines historiques profondes à cette façon de penser les choses. On peut penser, bien sûr, à Pascal, mais de façon peut-être plus précise, on peut voir ici cette contribution de John von Neumann comme espèce de résultat, la confluence de deux traditions philosophiques qui sont celles dont j'ai déjà parlé, le déterminisme des machines forgé en particulier par Descartes au XVIIe siècle et réapproprié par les penseurs matérialistes du XVIIIe siècle, mais également la pensée logique et rationaliste, dont un brillant exemple est Leibniz, donc à la fin du XVIIe siècle, qui dans sa machine, le calculus ratiocinator, utilise cet langage formel qu'il appelait la caractéristica universalis, qui est une espèce de langage formel qui permet, en fait, sur ces machines, de décider si une proposition est vraie ou fausse en utilisant les règles formelles de rationnelles et de calcul. Et donc, il avait l'idée d'une machine qui a été ici reconstituée, moyennant une proposition, pourrait, en la faisant tourner, répondre « c'est vrai ou c'est faux ». Alors, bien sûr, le calcul arithmétique élémentaire, mais également des propositions plus subtiles, même des théorèmes mathématiques. Alors, on voit ici, bien sûr, une anticipation de beaucoup de choses qui se sont produites au XXe siècle, mais qui sont déjà forgées en termes de concepts et même de machines partiellement construites du temps de Leibniz à la fin du XIXe siècle. Et d'ailleurs, Norbert Wiener, l'inventeur de la cybernétique, dit très clairement que Leibniz sa machine, le calculus ratiocinator, est une préfiguration très claire des machines computationnelles du XXe siècle. Alors, voilà, donc cette confluence de ces deux façons de penser, logique formelle, et puis le mécanisme hérité de Descartes, entre autres. Donc finalement, la contribution de John von Neumann part d'un constat, d'un problème qui est le suivant. Comment penser qu'un organisme puisse s'auto-reproduire? Dans son texte, il explique que finalement, une machine, un automate, une machine artificielle, on s'attend à ce qu'il y ait une dégénérescence de complexité de la machine parent à la machine produite. Pensons à une usine, une machine qui produit des ordinateurs sera dans son ensemble plus complexe que les machines qu'elle produira, parce qu'elle contiendra non seulement les composants, le plan de construction, les plans de contrôle, les individus pour les réaliser, et donc la machine dans son entier, l'usine, a une complexité plus importante que celle qu'elle produit en aval. Et donc, on s'attend à une dégénérescence de complexité. Or, c'est évidemment pas ce que l'on observe dans le vivant, où la complexité non seulement est maintenue d'une cellule à sa descendante, d'un organisme à sa descendance, mais même parfois cette complexité s'accroît dans une perspective d'un temps plus long, celui de l'évolution. Donc finalement, John von Neumann a eu la perspicacité de s'intéresser à ce problème de non-dégénérescence de la complexité et d'en faire un sujet d'étude et de comprendre finalement, de s'interroger comment comprendre le maintien de cette complexité. Et c'est ça qui va l'amener à une représentation logique, tout à fait renouvelée et déterminante, donc comme on va voir tout à l'heure, par cette théorie des automates. Alors pour cela, il part de Turing, et en particulier de la machine de Turing, qui est une machine en fait virtuelle, totalement abstraite, un concept mathématique, mais qui comprend une bande infinie, pensons à une mémoire infinie, une bande avec des cases discrètes représentées ici, utilisant un langage alors qui peut être 0 ou 1 ou autre chose, peu importe, une de tête de lecture et d'écriture, un registre d'état qui définit par exemple la condition initiale, la condition finale et toute situation intermédiaire, et puis une étape de transition qui est une fonction de ce qui est lu à tout moment et de ce qui est et du registre d'état de la machine. Donc, moyennant cette machine, Alan Turing donc énonce un certain nombre de possibilités. C'est étant donné une séquence donnée dans une telle machine, la machine va pouvoir opérer des calculs. Et donc Turing, dans son article de 1936, s'intéresse à la question de la décidabilité. Mais ici, le point important que von Neumann retient pour cette réflexion, c'est de dire finalement, cet automate va être capable de former une nouvelle séquence s'il est possible de spécifier une longueur finie de bande, une instruction, comme on pourrait le dire, qui, lorsqu'on l'introduit dans la machine, est capable de générer, par une écriture, une nouvelle séquence sur cette bande. Donc cette bande sera donc appelée une instruction, si l'on veut, et il s'intéresse maintenant à des machines de Turing qui ont cette caractéristique qu'elles seraient universelles, au sens où elles pourraient simuler toutes les autres machines de Turing possibles. Parce qu'on peut imaginer une machine de Turing qui fasse une multiplication, moyennant une bande, une autre qui ferait une addition, une autre qui ferait toutes les opérations arithmétiques, plus toutes les autres. Mais finalement, peut-on penser une machine universelle qui est capable de simuler toutes les autres machines possibles? Et c'est cette caractéristique qui interroge énormément von Neumann, parce que finalement, on pourrait se dire, est-il possible de construire une telle machine universelle? Et en raison du problème de la dégénérescence de complexité qui l'intéresse, il dit, bah, finalement, intuitivement, on aurait envie de dire que non, parce que comment penser une machine capable de simuler une machine qui aurait elle-même une complexité plus importante qu'elle, par exemple, ou au moins aussi complexe qu'elle. Et c'est cette difficulté qui l'amène à conclure que finalement, la machine de Turing est une bonne façon de penser cette question de la non-dégénérescence de la complexité qu'on obtient dans le vivant. Il en fait un outil essentiel pour penser, pour résoudre cette énigme du vivant où la complexité se maintient, alors qu'on aurait envie de penser intuitivement qu'une machine ne peut pas simuler une machine plus complexe qu'elle, ou au moins aussi complexe qu'elle. Donc voyons ici maintenant ce que von Neumann propose, et qui est le point central. Donc il dit finalement les deux caractères essentiels de cet automate autoréplicatif, c'est qu'il aura besoin donc bien sûr de copier la machine elle-même, de la réaliser, d'en faire une copie structurée, physique. Il aura besoin aussi de copier l'instruction qui permet à la machine de Turing de faire ce travail. Et donc il va considérer différents automates. Le premier automate, automate A, d'accord, et si on lui fournit une description d'un autre automate est capable de le construire directement. Le deuxième automate, automate B, en fait est capable de copier l'information qui va, en entrée de l'automate A, lui permettre de construire. Il va copier cette information ici. C'est donc un reproducteur de l'information, ou un réplicateur de l'information. Il faut également une unité de contrôle C qui permette à la machine A, ou contrôle la possibilité qu'a la machine A de construire, à B de reproduire, et qui donc contrôle donc les différentes opérations. On dénote maintenant D, l'automate composé de l'automate A, l'automate B, ainsi que l'unité de contrôle. Cet automate D construit ainsi a besoin d'une information ID pour être reproduite par l'intermédiaire de A et de B. Et donc on a ici, dans l'assemblage de A, B, C et D, ainsi que de l'information ID, une machine qui est donc autoreproductive. L'élément central, c'est, vous voyez, de penser la duplication de l'information qui est utilisée dans la machine de Turing pour se réaliser elle-même. Alors ce sont des choses qui pour nous sont évidemment bien connues, parce qu'on connaît toute la biologie, mais à l'époque c'était un tournant conceptuel majeur. Personne n'avait pensé comme cela avant lui. Il le fait en 1948, à l'époque où on a vu Schrödinger à la fois énoncer des choses tout à fait justes et pertinentes, mais également se fourvoyer dans la conception du rôle des chromosomes. Alors voyons, alors d'ailleurs, très conscient de l'importance qu'a ce modèle hérité donc des machines universelles de Turing pour penser un automate autoreproducteur, récepteur auto-reproductible, et en fait, il y a directement un lien avec la biologie. L'instruction ID is roughly affecting the functions of genes. Could the copying mechanism B performs a fundamental act of reproduction, the duplication of the genetic material? How arbitrary alteration of the system E, and in particular ID, can exhibit certain typical traits which appear in connection with mutation. Donc c'est quelqu'un qui a évidemment tout de suite compris ces liens. Mais ce que je voudrais vous montrer maintenant à droite, c'est l'écart de date qu'il y a entre cette conception logique de la machine autoreproductible, l'automate autoreproductible, et la découverte des moyens d'instanciation de ces fonctions en biologie, dans les années qui ont suivi. Donc, en 1948, von Neumann fait cette proposition. La découverte donc, de la structure de l'ADN, on l'a vu, c'est en 1953, quelques années après. L'automate autoreproducteur, finalement, une version minimale, c'est de dire, qui construit, c'est donc la découverte de la transcription, en 1961, formation des nouveaux ARN, du codon, aussi en 1961, de la traduction dans les années 50, et puis de tous les autres mécanismes. Donc finalement, il y a finalement une bonne dizaine d'années entre la proposition initiale et puis la découverte des mécanismes biologiques sous-jacents. La duplication de l'ADN en 1956, le rôle des topoisomérases, etc. Le concept de contrôle de A et B, comme on va le voir, le concept de régulation génétique, 1961, tous les mécanismes de transduction du signal dans les années 70-80, l'idée donc de cette machine universelle de Turing, qui est l'agrégat de A, B, C et D, finalement c'est toute la machinerie cellulaire en excluant l'ADN, et avec l'ADN donc c'est toute la cellule. Donc on voit bien que il y a eu une anticipation très précoce de la logique propre à une machine autoreproductible en 1948 avec John von Neumann. Alors ici je voudrais m'arrêter un instant pour repenser un peu le rôle de cette information ID. Donc, tout le monde a en tête l'idée qu'il s'agirait ici de l'ADN. Mais finalement, est-ce que l'ADN est le tout de l'information nécessaire pour produire une cellule? Voilà une question fondamentale, on y reviendra plus tard dans un cours. Mais finalement, si jamais la cellule était intégralement dite auto-organisée, c'est-à-dire que la donnée de sa composition chimique était suffisante pour qu'elle se réassemble d'elle-même, alors on se rend droit de penser que finalement l'information qui code pour ses composants, donc les composants que sont les protéines en premier lieu, mais également les molécules produites par l'action enzymatique de nombre de ces protéines, donc le métabolisme des sucres, les lipides, etc., la cellule pourrait se reconstituer à partir de ces composants chimiques. Or, finalement, dans une expérience de pensée dont je reparlerai plus tard, au cinquième cours, si l'on prend une cellule plus simple, une bactérie, que l'on lyse pour en simplement extraire la composition chimique, en détruisant les structures, mais en préservant la nature des molécules, en préservant même l'ADN, le polymère d'ADN, cet homogénat chimique complet de la cellule, avec toute la physique non altérée, ne donnerait pas naissance à une nouvelle cellule auto-organisée d'elle-même, parce qu'il y a besoin de structures qui soient un peu des templates ou des points de réassemblage de structures. Une cellule dont on enlèverait toute structure, par exemple la membrane comprenant certaines protéines, ne se reformerait pas d'elle-même, elle a besoin d'hériter d'une cellule elle-même. Donc finalement, la donnée de la composition chimique telle que codée par l'information génétique n'est pas suffisante pour prescrire la perpétuation d'une cellule. Donc ça, c'est simplement pour dire qu'il faudrait revoir cette information, cette bande, c'est pas simplement la prescription de la composition chimique pour que la machine soit véritablement autoréplicative, il faudrait écrire une description, une forme, parce que finalement l'hérédité peut se penser en ce sens, mais quelque chose de formel qui pense l'hérédité d'autre nature que simplement chimique et génétique, mais une hérédité structurelle. Voilà, c'est quelque chose dont je parlerai dans mon cinquième cours, donc mettons en suspens cette question, mais je voulais au moins l'introduire après avoir exposé la structure logique d'un automate autoréplicatif qui a été une préfiguration de tout ce qui s'est passé dans la révolution de biologie moléculaire des années 50 et 60. Voilà, donc finalement, comme je disais, une hérédité structurelle qu'il faudrait penser pour avoir une compréhension complète de cet automate autoréplicatif. Alors, qu'est-ce qui, de facto, dans une cellule, se comporte comme un blueprint ou un code script précis? C'est véritablement, effectivement, la séquence codante de l'ADN des protéines, vu que là, moyennant la connaissance du code, on peut directement, de façon isomorphe, coller, relier la description de la séquence d'ADN et la séquence de la protéine qui en résultera. Mais ce qui n'est pas propre à un blueprint ou un code script, c'est les moyens de contrôle de l'exécution de ce code, correspond à l'automate C dans l'automate de la structure C dans l'automate de von Neumann. Et donc c'est toute cette question des moyens de contrôle de l'exécution du code qui devient un sujet central d'intérêt maintenant. Alors justement, nous en venons à la troisième métaphore, une troisième métaphore très féconde et sur laquelle j'aimerais m'arrêter maintenant, qui est de penser le génome comme un programme. Alors cette notion de programme a été formulée, proposée de façon séparée, la même année, par deux groupes de personnes. Tout d'abord, Jacob et Monod dans leur article, un peu une revue de leur travail sur le phage lambda et l'opéron lactose. Et de l'autre, Ernst Mayr, en 1961, dans un article où il réfléchit sur la causalité en biologie. Donc un article plus de philosophie des sciences, on va dire. Alors commençons par la conception du programme et pourquoi en fait Ernst Mayr, qui était un éminent ornithologue, taxonomiste, l'un des acteurs de la théorie synthétique de l'évolution, qui est un grand penseur et qui s'intéresse ici finalement à deux grands champs de la biologie, ce qu'on appelle la biologie fonctionnelle, qui est typiquement s'intéresse au comment des choses, qui utilise une approche réductionniste et qui essaie de comprendre des fonctions émergentes à partir des composants de moléculaires ou cellulaires d'une cellule ou d'un organisme. Et puis la biologie de l'évolution qui s'intéresse non pas aux causes proximales, mais aux causes ultimes, au comment des choses, ou dit de façon différente, qui s'intéresse à la causalité, à la finalité interne des structures vivantes, ce en vue de quoi elles fonctionnent, non pas une causalité, une finalité extérieure, transcendantale ou autre, une propension à se diriger vers un but de survie, de reproduction par exemple, ou même de fonction physiologique. Pensez à une bactérie qui remonte un gradient de glucose, elle est véritablement structurée dans l'intérieur en fonction d'une finalité qui est de reconnaître les gradients de molécules. Donc cette télonomie, en fait, est le point de départ de la pensée de Ernst Mayr, et il dit on peut utiliser donc une théorie de l'information, le langage de la théorie de l'information, pour caractériser ces deux champs de la biologie. Le biologie fonctionnelle s'intéresse aux aspects du décodage du programme d'information contenu dans l'ADN du zygote. Le biologiste de l'évolution, d'un autre par ailleurs, s'intéresse à l'histoire de ces codes d'information et aux lois qui contrôlent leur changement de génération en génération. Donc finalement, on voit ici la définition d'un programme comme façon de penser la télonomie en biologie. Mais on voit bien très clairement l'idée d'un langage emprunté à la théorie de l'information. Alors, en même temps qu'il propose ce nom très fermé de programme, avec toute la métaphore du langage informatique, qui était très développé à cette époque, bien sûr, même si les machines n'étaient pas puissantes, on utilisait les ordinateurs déjà, il dit une caractéristique de ce code génétique, c'est qu'il n'est pas simplement rigide, comme on pense une machine, ou dans laquelle le code est écrit et inamovible. Ces phénomènes tels que l'apprentissage, la mémoire, la régénération, que l'on observe dans le vivant, indiquent que ce programme est un caractère relativement ouvert, ou flexible, on dirait. Ces codes, par conséquent, dans une certaine mesure, sont spécifiques. Mais d'un autre point de vue, il spécifie plutôt des normes réactives, quelques des capacités générales ou des potentialités plutôt qu'une prescription précise dans le détail. Et donc c'est un langage qui à la fois parle de programme, comme d'un agenda ou d'une prescription de processus, mais en même temps d'une façon relativement ouverte, qui est une subtilité assez importante pour penser de façon adéquate cette métaphore du programme en termes de au cours du développement. Alors les autres personnes donc qui contribuent à qui parlent de programme sont évidemment Jacob et Monod dans cette travail de revue publié en 1961 où ils travaillent sur l'opéron lactose et le phage lambda comme paradigme pour penser la régulation de la synthèse protéique. Donc il s'agit ici de régulation génétique chez les bactéries. Et leur découverte principale a été d'identifier en parallèle des gènes structuraux, des protéines nécessaires pour la structure d'une cellule, de gènes dits régulateurs. Alors, gènes, dans le langage de Jacob et Monod, ce n'était pas une séquence codante, comme on le dirait aujourd'hui, mais une séquence d'ADN qui prescrit en fait une fonction particulière. Donc ici, on a un gène régulateur, on a aussi un gène opérateur, aujourd'hui on dirait un promoteur. Mais l'idée, c'est que donc ce régulateur et cet opérateur jouent un rôle déterminant dans la régulation génétique. Donc il y a des gènes régulateurs, et des séquences qui permettent de répondre à ce que codent ces gènes régulateurs, donc les répresseurs dans leur cas particulier, qui est l'opérateur. Donc on voit bien ici une représentation en 1961 de cette unité de contrôle dont la nécessité était postulée ou proposée par von Neumann en 1948, ici dans cet article de synthèse des travaux de Jacob et Monod dans les années précédentes. Alors de façon plus concrète, et pour se rappeler un peu le caractère central donc, de cet opéron-lactose, il s'agit de comprendre ici ce phénomène lorsqu'on observe des bactéries qui poussent en quelques heures dans un milieu riche en sucre. Le glucose est d'abord métabolisé pour la croissance, puis lorsqu'il n'y a plus de glucose, les bactéries vont marquer un temps d'arrêt dans leur croissance pour repartir de nouveau lorsqu'elles vont pouvoir maintenant digérer le lactose. Elles le font en synthétisant, d'abord en sentant l'absence de glucose et la présence de lactose, et à partir de là, prendre des décisions, entre guillemets, qui leur permettent donc de digérer le lactose en synthétisant d'un côté par exemple la bêta-calagdosidase, une perméase qui permet de faire rentrer le lactose à l'intérieur de la cellule, etc. Et donc on a ici la structure de l'opérateur où on a des sites de liaison pour la polymérase essentielle pour la transcription, mais également des sites de liaison de molécules, alors le répresseur identifié par Jacob et Monod, et ce qui a été caractérisé plus tard, CAP binding protein, qui est un activateur. Alors finalement, dans la configuration où il n'y a, il y a du glucose et pas de lactose, donc le lactose, sa fonction, c'est de réprimer le répresseur. D'accord ? Lorsqu'il n'y a pas de lactose, le répresseur est lié au promoteur, il n'y a donc pas de transcription qui permettent de digérer le lactose. Et le glucose présent permet donc le fonctionnement, la croissance de la cellule. En l'absence de glucose, maintenant, ce régulateur positif peut se lier à l'ADN, mais comme le lactose n'est pas présent, il n'y a toujours pas d'activation des gènes permettant le métabolisme du lactose et pour la croissance des cellules. Mais en revanche, maintenant, lorsque le lactose en plus devient présent, le répresseur est inhibé, et donc il y a activation de la transcription, l'activateur étant toujours là. Donc finalement, on voit ici, très clairement défini par Jacob et Monod, même si là c'est une compréhension plus complète que celle qu'il pouvait proposer à l'époque, il n'y avait que le rôle du répresseur, on voit bien ici une représentation très concrète de la capacité qu'une cellule a, en fonction de son environnement, de réguler son information génétique. Et en conclusion de leur article, Jacob et Monod pensent de façon plus large aux eucaryotes, en pensant au problème fondamental de la physiologie chez les eucaryotes et à l'embryologie, dans laquelle il s'agit de comprendre pourquoi certaines cellules, à tout moment, n'utilisent pas toutes les potentialités inscrites dans le génome de ces cellules. Elles sont capables d'orienter leur expression génétique suivant le contexte. This discovery of regulated and operator genes and of repressive regulation of the activity of structural genes reveals that the genome contains not only a series of blueprints, il pense aux gènes codant la structure, ou code script, comme on vient de le voir, but a coordinated program of protein synthesis and the means of controlling its execution. Donc c'était vraiment le point central, ce qui manquait à une compréhension, c'est cette unité de contrôle C postulée par von Neumann, elle est découverte par les travaux que ces gens ont effectués de façon très concrète. Le programme que Ernst Mayr propose est beaucoup plus abstrait, il est pensé de façon utile, mais là on a en fait un exemple très concret d'un tel programme inscrit dans la fonction de ces gènes régulateurs et opérateurs. Alors on peut le penser à la fois comme un programme informatique ou comme un agenda qui prescrit un certain nombre de décisions dans le temps. Le terme peut être utilisé à double sens en anglais. Il n'est pas forcément très clair quel sens était utilisé ici par Jacob et Monod. Mais étant donné qu'il parle de blueprint et tous les textes qu'il connaissait, il connaissait le travail de von Neumann, je pense qu'il avait une référence assez claire au programme informatique. Alors voyons dans le cas du développement, maintenant des exemples concrets de cela, bien après les années de Jacob et Monod. Le travail, donc je reparlerai très en détail de ça en lien avec la théorie de Shannon de l'information dans le cours numéro 3. On peut voir comment on peut réguler la fonction, l'expression de certains gènes pour coder l'espace, définir des coordonnées moléculaires qui permettent de définir l'identité des cellules. On voit ici un embryon de drosophile. Finalement, le point important que je voulais souligner, c'est que la séquence régulatrice, qui se situe en amont ou en aval du gène codant une protéine particulière, que code-t-elle ? Elle code une responsiveness, une propension à répondre à des molécules présentes dans son environnement et qui, ici spatialement, sont différentes. Sur toutes les cellules de l'embryon, il y a des concentrations de molécules différentes et la séquence des promoteurs, en fait, code pour une capacité de réponse à ces molécules. Et c'est donc celle-là qui permet donc une expression différentielle suivant la concentration. Par exemple, ce gène, dit Hunchback, dont la transcription est contrôlée par un promoteur, ici, il est activé par cette molécule bicoïde, un facteur de transcription dont la concentration varie. Et au-delà d'un seuil critique, le gène va pouvoir être activé, sinon il ne sera pas activé. Et donc, il y a une frontière d'expression qui dépend du nombre de sites de liaison de bicoïde sur un promoteur artificiel. Et puis, l'exemple plus sophistiqué, que je présente simplement de façon visuelle, on peut exprimer un gène maintenant de façon beaucoup plus précise, par exemple, cette bande précise d'expression d'un gène qui est exprimé en endroit très particulier parce qu'il lie les coordonnées spatiales venant de la combinaison d'expression de plusieurs gènes, dont on voit ici les profils de distribution dans l'embryon. Donc ici, finalement, ce qui code l'expression de ce gène, c'est la combinaison de ces facteurs, de ces séquences de liaison qui code la réponse possible des cellules, du gène, au cocktail de molécules qui sont présentes dans la cellule à un instant donné, à un endroit donné de l'embryon. Donc voilà ici un peu présenté de façon très rapide la postérité du type de concept de programme de régulation génétique qui a été proposé dans les années 60. Alors d'autres notions qui font appel aussi à la notion d'automate reviennent dans la littérature génétique au cours du développement, en particulier de la drosophile. Il y a un généticien important qui s'appelle Garcia Bellido qui finalement s'intéresse aux événements génétiques qui, en lien avec la division cellulaire, permettent de marquer de façon définitive toute une destinée de cellules. Donc on pense ici le développement comme un lignage avec un automate génétique inscrit dans la structure d'une cellule qui permet à un certain moment d'une division cellulaire de marquer de façon irréversible des cellules. Par exemple, dans l'embryon de drosophile, l'activation d'un gène, UNGRAIL, en vert, qui des heures et des heures plus tard, plusieurs jours plus tard, va marquer aussi certains compartiments dans les structures adultes qui ne sont, et ce gène en fait exprimé dans l'embryon, s'est perpétué de façon clonale ou polyclonale dans l'ensemble des cellules descendantes. Donc on voit ici pas simplement un automate génétique, comme on l'a pensé avec von Neumann, mais aussi un automate cellulaire, une cellule qui se divise, qui en vertu de son expression génétique va pouvoir perpétuer une organisation. Donc ça c'est la notion de gène sélecteur. Et ce type de vision donc du lien entre un automate cellulaire et un automate, disons, autoréplicatif, et puis la division cellulaire, a inspiré en fait aussi des analyses assez intéressantes sur le lignage cellulaire. Je vous présente ici un article qui est maintenant une vingtaine d'années, en 2005, mais qui s'intéresse finalement à la façon d'appréhender les lignages observés au cours du développement. Alors on a à l'esprit le lignage de Senorabditis elegans, mais tous les organismes ont des lignages cellulaires où à certains moments de division, des décisions permettent l'expression différentielle de certains gènes, et ici représentées par des codes de couleur. Et à la fin, le but est de produire des identités cellulaires spatialement organisées nécessaires à la physiologie d'un organe ou d'un embryon. Donc il y a plein d'exemples en tête, mais ici ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'approche. L'approche très héritée de cette pensée algorithmique consiste à se dire d'étudier la complexité de ces lignages d'une façon qui est très inspirée de la complexité algorithmique de Kolmogorov, où ici on peut définir la complexité du lignage comme le rapport entre la description minimale qui permet de générer ce lignage, en particulier le nombre de cellules que l'on veut obtenir, en termes de type cellulaire distinct, et puis le nombre réel observé in vivo de division cellulaire. Donc ici, on a le lignage le plus simple, que l'on peut calculer de façon formelle, et puis le lignage observé. En faisant le rapport, on peut voir donc ici, donc il y a 11 décisions différentes, 17 ici, donc on a une complexité algorithmique du lignage de 65%. Et donc à partir de cette définition, ils peuvent étudier finalement quel est le degré de complexité observé par rapport à l'ensemble des lignages possibles. Alors on peut d'un côté former des lignages aléatoires, dont on peut voir la distribution de la complexité ici, et puis le lignage de complexité minimale, selon ce que je viens de voir, et puis les lignages observés, par exemple ici, chez une ascidie qui est un neurochordé, on peut voir que la complexité observée chez ces lignages in vivo est beaucoup plus proche de la complexité minimale observée que l'on peut calculer, de la complexité aléatoire attendue. Donc ça veut dire que, alors dans les articles, ils poussent un peu loin en disant bah, finalement c'est comme s'il y avait une forme d'optimalité de ces lignages. En fait, si l'on se donne comme contrainte un arrangement spatial des cellules particuliers qui évidemment est très important en termes de phénotype. Donc c'est une. Et je vous renvoie aussi à un autre article, si cette question vous intéresse, de mon collègue Paul Villoutret et de ses collègues à Marseille, qui a étudié le lien entre lignage spatial, les contraintes spatiales, et puis les contraintes formelles liées au type de décision cellulaire contenue dans un arbre de décision logique par division cellulaire successive. Alors, la représentation moderne de ce type de pensée est à vrai dire pour moi assez décourageante, mais je voulais quand même vous les représenter, même si elles sont à certains égards, elles ont été très fécondes. C'est de voir, par exemple, le travail de Eric Davidson à Caltech, donc décédé il y a quelques années, mais qui, en travaillant chez l'oursin dont j'ai abondamment parlé, c'est pour ça que j'ai voulu citer cet exemple, a pu se représenter donc le schéma, le programme de régulation génétique qui définit ici le mésendoderme, c'est-à-dire ce type ces lignées cellulaires présentes ici dans l'embryon d'oursin et qui un destin cellulaire à la fois hybride entre le mésoderme et l'endoderme. Ou alors ce type de représentation du programme génétique qui définit le mésoderme dans l'embryon de drosophile. Donc effectivement, ce n'est pas simplement un facteur, mais de multiples facteurs qui participent à la régulation d'un type cellulaire au cours du développement. Alors maintenant, arrêtons-nous un instant pour faire un peu une critique ou prendre un peu de recul par rapport à ces représentations, quand bien même elles ont été extrêmement fécondes. Alors, je ne m'arrêterai pas plus sur le blueprint, parce qu'il ne dit rien de comment l'organisme va utiliser une information pour se construire. Donc c'est une représentation très naïve, évidemment. Le code script, même s'il est utilisé par des gens comme Jacob et Monod pour parler en fait de représentation de la séquence codante dans un gène, donc le lien entre nucléotide et ADN, moi je parlerai plutôt de code script dans ce cas, mais pour le code script et le programme, les caractéristiques de ce type de représentation et leurs limites sont les suivantes. En premier lieu, il y a dans ces représentations, il y a un déterminisme algorithmique de calcul qui est sous-entendu, mais on sait bien que les organismes sont capables de trouver des voies alternatives à leur développement. C'est manifeste lors du processus de régénération. D'ailleurs, les expériences très anciennes de Hans Driesch à la fin du 19e siècle sur les oursins montrait qu'on pouvait dissocier les blastomères et l'embryon était capable de se réguler, de reconstituer son développement. Donc finalement, ce n'est pas du tout comme une machine algorithmique, comme un ordinateur qui, comme on le sait, est très fragile. Si de façon aléatoire vous enlevez des lignes de code ou même certains points d'écriture dans un programme, il va la chance d'avoir des mutations qui arrêtent la machine est extrêmement importante. Donc ça, c'est une caractéristique des machines algorithmiques, alors que les organismes sont extrêmement résilients, extrêmement robustes par rapport à ce type de perturbation, et les chemins pour arriver au développement final sont tout à fait beaucoup plus nombreux. Donc la régénération et l'adaptation telle que se manifeste dans le développement montrent les limites de cette façon très déterministe de penser et algorithmique de penser le développement. Le deuxième point, c'est que les organismes sont sujets à des fluctuations nombreuses au cours de leur développement et que c'est typiquement pas la façon de penser le fonctionnement d'une machine dans laquelle les choses ne peuvent pas être soumises à des fluctuations trop importantes. Les organismes aussi se reconfigurent en permanence en raison de l'interaction avec l'environnement. Alors une cellule dans l'organisme en développement va se reconfigurer en interagissant avec l'environnement embryonnaire et un embryon ou un organisme va lui-même se reconfigurer en fonction de l'interaction avec son propre environnement. Pensez notamment au développement placentaire, mais également dans deux organismes. Il y a des interactions entre l'embryon proprement dit, les réserves nutritives, l'environnement mécanique dans lequel il se situe, même l'environnement, la température, etc. Donc cette reconfiguration est tout à fait différente de ces métaphores informatiques que l'on a vues. En dernier point et de façon assez importante, finalement, le déterminisme algorithmique tel qu'on le voit représenté dans ces métaphores sous-entend que tous les états cellulaires de l'organisme sont définis d'une façon totalement précise, et alors que en fait, on peut s'interroger sur cette capacité de définir de façon absolue, précise, comme s'il y avait un inventaire des états possibles. Du système. En fait, l'organisme est capable aussi de s'adapter et l'embryon a des situations nouvelles qu'il n'aurait jamais vues et néanmoins dans ces conditions-là de continuer son développement. Donc, je pense que ces critiques, von Neumann lui-même en était conscient. Tout à l'heure, je parlais de Ernst Mayr, des normes réactives, de potentialité et du fait que le programme était en un sens ouvert. Je pense que peut-être il faisait référence à ce type de notion présentée ici, mais John von Neumann disait « The natural gene does probably not contain a complete description of the object whose construction its presence stimulates. » Donc il parle de stimulation. « It probably contains only general pointers or general cues. » Donc c'est une façon assez différente quand même de penser les choses. Et bon, il n'est plus là pour qu'on puisse discuter de ce genre de choses, mais je pense qu'il avait une anticipation du fait que c'était quelque chose qui pointait vers une certaine évolution plutôt qu'une prescription dans le détail du système. Et justement, ceci va faire l'objet de la dernière étape de mon cours. Mais en avant, j'aimerais vous dire qu'il y a aussi un autre modèle qui a été utilisé, le modèle de la recette. Finalement, c'est en gros le modèle du programme, mais dans lequel on considère de façon extrêmement importante, et tous mes cours ces dernières années l'ont bien illustré, que finalement, il existe un environnement physique et chimique dans lequel ces processus logiques se produisent, qui ne sont pas codés par l'ADN ou par quoi que ce soit, qui sont simplement donnés gratuitement au système et qui, en fait, permet, moyennant les cues données par l'ADN ou le génome, etc., permet à la structure de se développer. Donc finalement, la biologie ne va jamais prescrire ou coder l'environnement physico-chimique dans lequel elle se situe et qui est donné gratuitement pour elle et qui lui permet de se constituer comme elle évolue naturellement. Et donc c'est en ce sens qu'on peut dire que quand on constitue une recette, on définit un certain nombre de prescriptions avec un certain ordre, mais il existe un environnement physico-chimique essentiellement non prescrit par la recette, mais qui est là et qui permet à la recette d'avancer. Donc simplement, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de reconnaître le fait que tout n'est pas codé dans cet automate autoréplicatif de von Neumann représenté ici, mais au contraire qu'il existe un environnement physico-chimique qui en lui-même contient beaucoup d'informations. Certains gens pensent à l'information dans l'univers inerte et qui en fait est nécessaire pour que cette information biologique opère ses propres actions. Alors finalement, inspiré par cette autocritique de von Neumann ou cette idée de pointeur ou de normes réactives proposées par Ernst Mayr, on en vient finalement à parler, à mon avis, ce qui est le cœur d'une façon de penser correctement le génome en termes de mapping entre le génotype et le phénotype. Alors, très rapidement, il y a eu l'idée précoce remontant à Efrussi et Biddle, l'idée d'un mapping très simple entre un gène et une enzyme. Biddle et Tatum, qui ont eu le prix Nobel en 1958, en travaillant sur le champignon filament de Neurospora crassa, avaient montré effectivement qu'un gène correspondait à une enzyme dans le métabolisme des acides aminés en particulier. Mais très rapidement, les études dans le développement des organismes multicellulaires ont permis de voir qu'il y avait effectivement beaucoup de gènes qui correspondaient à une fonction particulière. Et ici, c'est un travail important, un article publié en 1969 par Eric Davidson qui s'intitule « Gene Regulation for Higher Cells, a Theory ». C'est pas une théorie au sens mathématique du terme, mais c'est une façon de penser la régulation génétique, prenant en compte le fait que, effectivement, comme on le voit ici, pour une fonction donnée, synthèse du glycogène, il existe de nombreux gènes. Et donc, il faut penser de façon multigénique les traits phénotypiques. Et donc, pour faire cela, il propose ici, de façon très programmatique ou annonciatrice de la suite, une vision en diagramme de régulation, alors très liée, on pourrait penser à un circuit logique ou un circuit informatique. Donc, on est très dans cette école de pensée, en 1969, dans laquelle, finalement, moyennant un senseur dans l'environnement, un gène intégrateur va être capable de réguler conjointement beaucoup de gènes producteurs, P, que l'on voit ici, alors 5 ici, d'autres ici, et avec des intermédiaires qui seront ces activateurs. Alors le concept de gène aussi est très vague, il s'agit de séquences régulatrices comme de gènes qui codent des protéines particulières, mais le point est que on intègre l'information pour réguler en cascade toute une batterie de gènes en aval. Et tout à l'heure, je vous montrais un diagramme du mésendoderme de chez l'oursin, c'est le travail qu'il a publié dans les années 2000, il est mort il y a quelques années, mais tout ce qu'il a fait par la suite, entre 1969 et les années 2000, c'est finalement une caractérisation très précise de ce type de diagramme, en identifiant les molécules, en les caractérisant, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a donné toute sa vie, consacré vraiment à l'étude du diagramme de régulation d'un organisme multicellulaire comme l'oursin. Alors le penseur, à mon avis, le plus original et important de cette pour penser de façon renouvelée le lien entre le génotype et le phénotype, c'est Waddington. Donc Waddington est un penseur très original, et je vous invite en particulier, si vous avez le temps, de lire le chapitre 2 de son livre « The Strategy of the Genes », publié en 1957, qui s'appelle, le titre est tout un programme, la cybernétique du développement. Donc Norbert Wiener était déjà évidemment très connu à l'époque, avait défini les fondements de la cybernétique. Et dans ce chapitre 2, il essaie de penser cette situation particulière. Dans un œuf, l'œuf fécondé, il y a des inhomogénéités que l'on peut observer. Et on peut le voir comme des petites fluctuations de densité de molécules qui resteraient à caractériser. Et il essaie de penser comment, à partir de ces petites inhomogénéités, il peut y avoir des bifurcations. C'est pas le terme qu'il utilisait, mais la théorie des systèmes dynamiques était quand même déjà bien développée d'un point de vue mathématique à l'époque. Et essaie de penser comment des petites fluctuations vont pouvoir s'amplifier. D'ailleurs, l'article de Turing avait déjà été publié. Il parle de Turing sans citer son article qui est publié en 1952, mais c'est l'idée de systèmes en fait qui sont capables à partir de fluctuations de créer en fait des structures, des patterns, et dans le cas particulier de former les constituants futurs d'un organisme. Et donc en pensant en termes de systèmes dynamiques avec des exemples de modèles mathématiques d'amplification de fluctuations et de bifurcations, il en vient après à dire que finalement il faut penser le développement en termes d'espace de phase, d'évolution dans un espace de phase de très grande dimension, qui représente ici de façon très simplifiée en deux dimensions abstraites, dans lesquelles l'œuf finalement évoluerait vers des points de séparation de structures qui correspondent à l'évolution phénotypique. Alors c'est un modèle très abstrait, mais l'idée importante c'est de passer de termes de dynamique dans un espace de phase en très grande dimension. Et finalement c'est la caractérisation de cet espace de phase qui est déterminante pour penser le lien entre le génotype et le phénotype. Alors, la métaphore que l'on connaît bien, on connaît moins ses représentations qui sont dans son livre que celle-ci, que tout le monde connaît, et que j'ai même utilisée pour l'affiche de mon cours. Ce paysage de Waddington représente ici, alors selon ces termes, les états initiaux du système sont des différents « different cytoplasmic states in different parts of the egg ». Je le cite littéralement. Et après « end states », un œil, un cerveau, etc. Donc, ici, le point important, c'est de parler de trajectoires dans lesquelles il y a un équilibre, non pas des états finaux, en termes des états finaux, mais des trajectoires elles-mêmes. Comme s'il y avait une espèce de l'ensemble des trajectoires possibles, certaines, en fait, sont plus stables. Il parle de créode ou de necessary path pour penser, la représentation des trajectoires comme celle dans un espace de phase qui correspond à la succession des états d'un système vers lequel le système reviendrait s'il est perturbé. Donc en fait, on pourrait perturber la trajectoire d'une cellule et elle reviendrait toujours vers ses créodes représentées ici. Il y a un autre moment que pour mieux rendre compte des fluctuations d'un système, on pourrait représenter la bille d'une façon non homogène. Ça peut être une bille avec une bosse qui va donc avoir une trajectoire un peu fluctuante. Et l'autre point très important, c'est de dire finalement que ce paysage en dessous est contrôlé, parce que The Strategy of the Gene, son livre, indique tout le programme. Il s'agit de penser le développement en termes de déterminisme génétique. Mais il le faisait de façon assez radicalement différente des autres, très inspiré par la théorie des systèmes dynamiques en particulier. Et donc il parle donc de ces gènes qui sont donc ces piquets de tente avec des haubans qui sont reliés au paysage et qui le façonnent. Et ce qui est, à mon avis, extrêmement intéressant dans cette représentation des choses, c'est qu'elle laisse la place à une représentation polygénique des traits phénotypiques. Au lieu d'avoir un mapping isomorphe d'un gène à un phénotype, on a ici un paysage dans lequel on a un non-isomorphisme entre le génotype et le phénotype. C'est non linéaire, c'est combinatoire, c'est indirect. Et voilà toutes des caractéristiques qui sont essentielles en fait pour penser le lien entre génotype et phénotype. Alors ça n'arrange pas notre affaire, parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est vraiment dans ces termes qu'il faut penser les choses. Je souligne maintenant un article extrêmement important, publié en 1991, par un chercheur qui malheureusement est mort tragiquement très jeune, Pere Alberche, catalan je crois, qui travaillé avec les physiciens de la pièce, avec George Oster, qui a été à Berkeley à l'époque, qui a beaucoup inspiré et travaillé avec lui, publié des choses très intéressantes, et qui a pensé à l'évolution, et qui, dans cet article un peu revu, justement énonce, en 1991, d'une façon assez renouvelée, la façon selon laquelle il ne faut pas penser le développement, et celle, en revanche, qui est féconde. Il critique l'idée de penser le gène comme finalement étant situé en haut d'une hiérarchie ou en bas dans ce diagramme qui déterminerait de façon unidirectionnelle et hiérarchique les paramètres développementaux et le développement. Au contraire, il faudrait inscrire les gènes dans un réseau d'interactions de propriétés cellulaires, des propriétés des tissus, de leur géométrie assemblée, qui elles-mêmes pourraient rétroagir sur les gènes. Donc finalement, le génome est inscrit dans sa réalité cellulaire, la réalité de l'organisme dans lequel il est situé, et ces rétroactions perpétuelles permettent de penser de façon différente la fonction des gènes, en le replaçant dans leur contexte. Mais de façon plus déterminante, il formule l'hypothèse, en reprenant l'idée d'espace de phase proposée par Waddington des années plus tôt, l'idée que on peut représenter différents phénotypes dans cet espace abstrait, hein, où les paramètres en deux dimensions X1, X2, phénotype A, B, C, D, E, F. Et finalement, X1, X2 sont une représentation en basse dimension de l'ensemble des génotypes possibles. Un point, un endroit particulier correspondra à un génotype particulier selon ces deux coordonnées et correspondront donc à un phénotype. L'avantage de ce type de représentation, c'est qu'il permet de voir que la stabilité d'une forme, la stabilité phénotypique par rapport aux variations génotypiques, correspond à l'ensemble de l'aire recouverte dans cette description. Finalement, cela veut dire que beaucoup de génotypes seraient compatibles avec un phénotype donné. D'accord? L'espace des phénotypes est beaucoup plus petit que l'espace des génotypes possibles. D'accord? On peut aussi penser des transitions phénotypiques en termes des frontières entre les différentes qui relient les différents phénotypes. La longueur de ces frontières permet de penser le nombre de passages possibles, le nombre de transitions génotypiques qui permettent une transition phénotypique. D'accord? On parlerait aujourd'hui pour ces frontières de transformation de bifurcation boundaries pour un système dynamique. Mais c'est vraiment la façon dont qu'il présente par laquelle il présente les choses. Le dernier point, c'est que si on est une espèce donnée, en fonction de où on est dans cet espace, on peut être proche ou non d'une bifurcation qui permet une transition phénotypique. Par exemple, cette espèce 1 va pouvoir transiter facilement, en tout cas en peu de mutations, vers F ou vers E, alors qu'elle est depuis D, alors qu'ici, il faudra un chemin plus long, et de toute façon, elle ne pourra transiter que par D ou B. Donc, l'autre point, c'est que dans cette représentation, il y a tout un diagramme de transformations, avec certaines transformations qui sont plus nombreuses que d'autres. Les implications sont très importantes. On peut penser la robustesse, alors c'est pas le je ne sais pas si c'est un terme qu'il utilisait lui, mais je crois quand même, la robustesse d'un phénotype au regard des variations génotypiques veut dire finalement qu'il y a beaucoup de génotypes qui sont compatibles avec un phénotype donné. Et l'évolvabilité du système dépend de façon cruciale du diagramme de transformation, et c'est-à-dire de la longueur des interfaces de transformation possibles. Et on voit ici que ces transformations dépendent du diagramme de phase, ici, donc A ne peut évoluer que vers B ou D, alors que D vers tous les autres, et la probabilité de transition, avec les flèches plus ou moins importantes, c'est plus ou moins visible, dépend de la longueur de ces interfaces. Alors ça, c'est une hypothèse qui a été formulée dans les années 91, dans cet article, mais je trouve qu'il y a un certain nombre d'études, et j'en cite rapidement une ou deux, d'abord computationnelles, qui montrent qu'en fait, effectivement, ce modèle semble bien opérer. Dans cet article de 2007, les auteurs s'intéressent à, comme phénotype, comment des réseaux d'interactions entre des activateurs et des inhibiteurs, donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5 molécules, qui soit peuvent interagir entre elles, alors ça peut être des gènes ou des molécules, peu importe, qui peuvent soit s'activer en bleu, soit s'inhiber en rouge, ou l'inverse. Le point important, c'est qu'on peut créer tout un ensemble de topologies et s'intéresser au type de pattern que cette topologie de réseau génère. Et donc, on peut créer ici aussi un réseau de tels réseaux, où chaque petit point correspond à un réseau de topologie donnée, chacune étant voisine de l'autre par l'intermédiaire d'une seule mutation, qui est en fait l'ajout ou le retrait aléatoire d'une interaction particulière dans ce réseau topologique. D'accord? Et donc, on voit ici un réseau de réseaux, c'est-à-dire un réseau neutre dans lequel tous ces génotypes différents, chacun correspond à une structure d'un réseau, correspond au même phénotype. Parce que finalement, on est en droit, avec cette méthode maintenant, d'explorer quel est le lien entre génotype et phénotype. Et voilà les résultats que les gens obtiennent. D'abord, on pourrait penser deux cas de figure particuliers. S'il y a un réseau de réseaux assez compact, cela veut dire qu'il y a une certaine robustesse. Parce que ça veut dire que moyennant des mutations, on peut explorer un même phénotype. En revanche, ce système n'est pas évolvable parce que les autres réseaux sont à grande distance de lui. Il n'y a pas de mutation qui permette d'aller à distance. Donc le système est robuste, mais n'est pas évolvable. À l'inverse, on pourrait avoir des systèmes qui sont tous isolés les uns des autres. Donc là, il n'y a ni robustesse, ni innovation possible, pas d'évolvabilité. Et finalement, ce qu'ils observent dans cet exemple étudié de façon computationnelle, c'est que la situation observée est intermédiaire. On a à la fois un réseau qui est robuste et capable d'innovation, parce que il existe des espaces neutres assez conséquents qui permettent en fait de proche en proche d'évoluer dans le génotype tout en restant donc avec le même phénotype, donc robustesse, mais également de parcourir, d'aller d'un coin de l'espace de face à l'autre pour pouvoir ainsi transiter vers une autre variation phénotypique, ce qu'ils observent. Donc, cette analyse computationnelle, dans cet exemple précis, montre que l'intuition de Perret-Alberche, en tout cas, peut marcher dans ce genre de cas, ce que je trouve assez intéressant. Mais après, il y a différentes études expérimentales qui ont montré maintenant qu'on peut perturber de façon très significative des réseaux d'interaction moléculaire de façon expérimentale et montrer qu'il n'y a pas de variation phénotypique. Un exemple flagrant, c'est dans ce travail chez Echeri Chacoli du laboratoire de Louis Serrano, qui a utilisé ce type de réseau transcriptionnel ou de régulation et qui maintenant a ajouté de façon aléatoire, a couplé un promoteur avec un autre gène, en ajoutant des combinaisons qui n'existent pas in vivo. Ils en ont généré ainsi quasiment 600 nouvelles connexions dans ce réseau, et ils ont observé que 95% de ces nouvelles, de ces mutations, de ces nouveaux réseaux, en fait, ont le même phénotype, n'ont aucun impact. Donc, ce qui sous-entend que, donc, effectivement, il y a une grande résilience, ou en tout cas un grand espace neutre, ou d'un très grand espace génotypique qui correspond à un phénotype donné. D'autres exemples étudiés de façon moins systématique au cours du développement, on peut prendre la segmentation de l'embryon des insectes. Je vous ai parlé de la drosophile tout à l'heure, de ce gène bicoïde qui en fait définit les coordonnées dans la partie antérieure de l'embryon de drosophile. Voilà, c'est très unique même chez les insectes, hein, on ne le trouve pas dans d'autres insectes comme la guêpe ou un coléoptère comme comme Tribolium, où ici finalement tout le réseau en aval est le même, Hunchback, codon, on retrouve tous ces gènes, mais finalement bicoïde est remplacé par un autre gène, OTD, qui est déposé maternellement à la même fonction, forme à gradient. Donc finalement on voit une certaine plasticité, on peut remplacer un gène par un autre, on va avoir la même structure phénotypique parce que finalement tout le réseau par ailleurs est une grande partie du réseau est conservée. Donc ceci illustre de façon assez claire comment dans le développement embryonnaire, on trouve aussi une grande résistance ou robustesse ou capacité de changer certains éléments du réseau pour avoir une même mécanisme de segmentation en aval. Donc on va arriver à la fin de ce cours, j'aimerais conclure en disant tout d'abord que les métaphores du code script, du programme ou de la recette n'arrivent pas à saisir en fait de façon adéquate la représentation du génome qui permet de comprendre le développement d'un organisme pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, incapacité à penser de l'adaptation ou la régénération, la plasticité, le fait que ce sont des machines qui sont beaucoup trop dépendantes la robustesse du programme qui définit leur comportement, alors que dans le vivant il y a une grande plasticité, une grande robustesse comme on l'a vu ici. Donc finalement la façon de penser la représentation propre génome est celle dans laquelle il y a un mapping entre génotype et phénotype qui est non linéaire, non isomorphe, indirect entre génotype et phénotype. Et donc, on en serait conduit à conclure que le génome contient une représentation qui caractérise et contraint la dynamique de ce système, la dynamique de ces systèmes. Elle prescrit en fait la trajectoire dans cet espace en très grande dimension, et elle définit aussi cette représentation les paramètres effectifs qui encodent cette dynamique. Donc, au lieu de le penser en termes de mapping très linéaire, très simple entre des gènes et un certain nombre de propriétés, il faut penser en termes d'espaces de grandes dimensions, de dynamique dans ces espaces, dans lesquels ce qui est encodé par le génome, ce n'est pas toutes les étapes possibles, mais en fait, certaines trajectoires possibles dans cet espace de grande dimension. Alors, c'est une façon de penser les choses, ça ne dit pas tout de suite comment le faire, parce que c'est évidemment compliqué, mais ça dit que cette représentation en basse dimension dans le génome, pourquoi y a-t-il que quelques milliers de gènes chez un être humain, alors que certains postulaient qu'il en faudrait peut-être un million, etc. Mais c'est parce qu'en fait, c'est déjà beaucoup, cela dit, quelques milliers, mais en pensant en termes de réseau dynamique, de trajectoire dans un espace dynamique, en fait, la prescription d'un gène, c'est pas du tout ce que l'on croit. C'est même pas fabriquer une protéine ou l'autre. Ça, c'est bien important, mais c'est aussi de se représenter ces contraintes et ces paramètres effectifs de l'évolution d'un système. Donc, on pourrait donc résumer que ce que colle le génome, c'est un espace latent où une trajectoire inscrite dans la théorie des systèmes dynamiques. Et donc, la proposition serait que pour penser adéquatement le génome et penser adéquatement l'information, il faut vraiment partir en un sens de la théorie des systèmes dynamiques et des représentations en faible dimension qui, en fait, contraignent et représentent cette dynamique. Voilà. Alors, une dernière... Là, je fais référence à un dernier article, juste en guise de parenthèse, ayant énoncé ainsi cet espace en faible dimension qui représente une dynamique, un article récent en fait suggère une autre métaphore plus contemporaine, même si elle s'inspire aussi de l'informatique, et elle hérite directement donc du modèle de l'auto-encodeur, donc qui ont été développés à la fin des années 90 pour réduire la dimensionnalité dans les systèmes, et qui est utilisé maintenant à des fins tout à fait différentes. Mais l'idée, c'est de construire un espace de faible dimension à partir de données de grande dimension initiale dans cet espace là. Et la construction de cet espace latent génère en même temps un modèle génératif qui permet de décoder cet espace latent de faible dimension qui est très abstrait pour reconstituer en fait alors une image aujourd'hui ou reconstituer en fait l'ensemble de données initiales. Alors, ce qui est intéressant dans cette métaphore, c'est qu'elle est tout à fait, elle colle bien avec les caractéristiques que l'on a énoncées dans ce cours, à savoir que le fait que le lien entre génotype et phénotype est non linéaire, non isomorphe, distribué, indirect, etc. Et c'est tout à fait des caractéristiques que l'on trouve dans ce genre de représentation. L'idée peut-être derrière cette métaphore, c'est de dire que l'on pourrait utiliser maintenant tous les outils, la connaissance. Sur lesquels les gens font beaucoup de recherches actuellement, comme moyen finalement peut-être de caractériser ces représentations abstraites de la dynamique de ces systèmes, quelles sont les variables effectives qui sont importantes, quelles sont celles qui ne le sont pas, et comment ces variables latentes, qui définissent en fait cet état compressé, sont-elles reliées en fait à l'activité des gènes. Alors, en poursuivant cette idée maintenant d'un encodage et d'un décodage, on pourrait dire que l'encodage du génome, finalement, c'est le travail de l'évolution, qui entraîne, qui conduit de proche en proche à cette représentation très compacte de l'organisme, et le développement étant le moyen, moyennant le modèle génératif dans cet espace-latent de reconstituer l'organisme. Voilà, donc voici la diapo de conclusion et l'introduction en une minute des cours qui viennent. Je voudrais simplement signaler, en plus de ce que j'ai dit, que donc l'encodage de la dynamique et des états stationnaires qui sont représentés dans le génome d'une façon ou d'une autre sont décodés en fait dans l'espace physique des cellules et des embryons. Donc il ne faudra pas abstraire le génome et son fonctionnement de la réalité de l'ancrage mécanique géométrique dans lesquels il est situé, et ça, on le verra de différentes façons dans les cours 2, 3, 4, 5, la réalité de cette interaction entre la cellule, entre le génome, ce qu'il se prescrit, et toute la cellule, même c'est impossible de penser adéquatement le gène si on l'abstrait. Et finalement, à certains égards, j'aurais tendance à penser que la raison pour laquelle il y a des représentations fausses du génome, c'est que justement au XXe siècle, on a pensé la génomique d'une façon très extérieure par rapport à la réalité mécanique et structurelle des cellules et des organismes, et c'est vraiment de le replacer dans ce contexte qui permettrait de repenser différemment le rôle des gènes. Ceci implique donc des interactions, des feedbacks, même des processus d'apprentissage, à certains égards, de mémoire, sur les trajectoires et les états passés, et qui fera l'objet donc du dernier cours. Donc voilà, nous avons fini ce cours d'introduction qui nous mettait un peu en appétit, j'espère, pour se présenter la question de l'information et de revoir comment penser de façon nouvelle le génome aujourd'hui par rapport à des représentations plus anciennes, néanmoins utiles. On verra la prochaine fois comment penser un certain nombre de processus biologiques en tête de code, codes multiples. On verra des choses vraiment, à mon avis, intéressantes. Et puis après, on verra sur un certain nombre de cas d'études le codage de l'espace, ses représentations, le temps, une information de nature différente, structurelle et géométrique, et enfin les questions de mémoire et d'apprentissage. Donc les cours suivants seront beaucoup plus ancrés sur des cas d'études particulières de recherche, mais j'aurai à cœur à chaque fois de présenter aussi les concepts importants pour ceux qui sont moins spécialistes de ce type de notions. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, et puis je vous remercie. À bientôt.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.